La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Sachez bien que la Syrie, c'est actuellement ce qu'on appelle Syrie et Irak. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des centaines d'agressions à travers l'histoire de l'Irak et de la Syrie contre la Judée, contre la Palestine. C'est vraiment un peuple qui aime la bagarre. Et ça se prépare encore. Actuellement, le dôme de fer américain, les missiles patriotes sont là. Autrement, déjà, on attaque sur le Mont-Golan, tous les jours avec des missiles sur Israël. Alors, pratiquement, ça a toujours été la castagne. Et c'est des peuples très vindicatifs qui n'ont pas peur de la bagarre. Et Israël est bien sûr amputé de 10 tribus du Nord au moment de Jonas. En 722, la Syrie a déglingué 10 tribus et les a déportées. Et elle a mis d'autres populations. Et pratiquement, eh bien, M. Jonas, il n'est pas content, il n'aime pas les Assyriens. Ah oui, comme les Français, les Belges, après la guerre, n'aimaient pas les Boches. N'est-ce pas? Eh bien, franchement, il y a vraiment chez cet homme-là, pas d'amour, mais Dieu lui dit, tu dois y aller leur prêcher. Ah, il ne veut pas. Et quand vous regardez la fin du livre, hein, dans la fin du livre, il n'a pas encore changé, ce brave homme. Ce brave homme pêcheur jusqu'au trognon, comme nous. Parce que quand cette ville s'est repentie et a été épargnée de la destruction, eh bien, notre ami Jonas dit au dernier chapitre, chapitre 4, « Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. De quoi? De ce que Ninive était sauvée. Il implora l'Éternel, dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Je ne voulais pas qu'il soit sauvé. Je ne voulais pas qu'il se convertisse. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent en colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. » Voilà, un peuple qui a agressé et qui a déglingué 10 tribus, et Dieu est compatissant, lent à la colère, etc. Donc Dieu a un plan sur la Syrie. Et ça dérange Jonas. Ben, j'étais en Israël en 2008, et j'ai vu comment, dans les rues, comment se comportaient les Juifs au chapeau, au crawl, qui vont au mur de lamentation. Ils sont passés dans un quartier arabe. Et moi, je me suis mis dans une boutique et j'ai regardé. J'ai regardé les regards des uns et des autres. J'ai regardé ce qui se passait. Je m'en fiche des murs, je regardais les âmes. Et je dis, c'est grave. Ben, c'était comme ça. Il y avait plein de Jonas là, avec le chapeau à la croix qui passait. Qui crève, c'est moi qui serai sauvé. C'est moi qui suis du bon côté. Je ne vais sûrement pas prier pour eux. Je ne vais sûrement pas leur faire connaître Yahvé. Heureusement qu'il y en a des autres qui agissent autrement. Mais pratiquement, hein, pratiquement, cette miséricorde de Dieu, tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dans Exode, au chapitre 33 ou 34, on voit que l'Éternel descend auprès de Moïse et l'Éternel crie le nom de l'Éternel. Donc Christ apprend à Moïse la nature même du Père. Il est lent à la colère et plein de compassion. Pour qui? Pour le peuple hébreu, pour le peuple d'Israël. Voilà que Christ vient tout près de Moïse et lui révèle que Dieu est plein de compassion, il met en réserve sa colère sur le peuple d'Israël. Donc la nature même de Dieu, c'est d'être patient, d'amener l'homme à la repentance pour Israël, au temps de Moïse dans le désert, puisqu'ils ont fait des statues, ils ont fait tout, ils sont corrompus, ils n'avaient même pas circoncis leurs enfants, ils n'avaient pas appris à connaître la parole de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'apprennent plus rien à leurs enfants. Il démissionne. Pas mieux. Eh bien, pratiquement, la colère de Dieu était sur eux. Ils sont morts dans le désert. Il y a quand même eu un peuple, un reste, qui est rentré dans le peuple de Canaan, avec Josué et Caleb. Dieu était lent à la colère. Il leur a laissé 43 ans pour réfléchir. Ils pouvaient se retourner vers Dieu. Il y en a qui ont suivi Josué et Caleb. Mais les autres, non. Et donc, c'est la même attitude du Dieu d'Israël pour le peuple ennemi. Et ça, Jonas ne veut pas. Il ne comprend pas et il ne veut pas. C'est facile de ne pas vouloir comprendre. Hein. On ne fait que s'écouter soi-même. Un croyant qui dit qu'il croit en Dieu, qui est centré sur lui-même, ne peut jamais comprendre. parce qu'il ne comprend que soi-même, et encore mal. Jonas, à la fin, au dernier chapitre, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Je ne veux donc pas voir ces Assyriens convertis et sauvés. Hein? » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu as raison de te mettre en colère comme ça ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Ben oui, il espère encore qu'ils vont tous mourir. Yeah. Quelle rage, quelle rogne. Et il n'a pas du tout la compassion de Dieu. Et il a vu que Dieu avait exercé sa compassion. Mais lui, il n'a pas. Le refus de conversion, le refus de l'action du Saint-Esprit en nous, faisons gaffe. C'est pas le tout de se croire quelque chose. Il faut que ce soit la réalité. Le refus de l'action du Saint-Esprit en nous, c'est une grosse question dans le peuple de Dieu. Jonas, c'est l'image du croyant, du peuple de Dieu, trop souvent. C'est pas qu'une histoire de baleine, Jonas. Ce serait trop bête, c'est pour les enfants alors. Et encore, les enfants comprennent parfois mieux que les grands. Alors, Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, pour lui ôter son irritation, ben, pour le calmer. Allez, pour faire des caresses au Jonas un petit peu. Hein? Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Oui, c'est comme un gosse. Il est content parce que Dieu lui a fait du bien. Mais que Dieu fasse du bien aux autres, il ne veut pas. Gros égoïste, ça. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Insolation ! Il n'y avait sûrement pas de casquette américaine à cette époque-là. Il n'y avait pas de lunettes de soleil. Il n'y avait pas de bouteille de coca, de Fanta, des glaçons. Puis, paf, ça y est. Quatre fers en l'air. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Il ne change pas, hein? Il ne veut pas la vie, lui. Il a vu les Ninivites qui recevaient la vie, il ne veut pas la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Prenons nos peuples chrétiens. L'an passé, 2015, au salon d'exposition de l'armement à Paris, 1870 milliards d'euros d'armement vendus. Mais pendant ce temps-là, on envoie des fusées sur Mars et tout le reste. Combien de milliards? 3, 4 000 milliards? Hein? Et puis après, tous les milliards qu'on dépense dans nos populations pour boire des chopes, pour aller au restaurant, pendant que le reste de l'humanité est dans le saccage. Hein? Et on s'en fiche. Et au moment qu'on sait s'amuser ici, on s'en fiche. C'est comme Jonas. C'est comme Jonas. On demandera bénédiction du curé et du pasteur quand on mourra. Ben, ça sera du vent, mes amis. Ça sera du vent, parce que Dieu ne bénit pas ce qui est maudit. L'Éternel appelle ce croyant à quelque chose. Verset 10. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu ne l'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Donc j'ai pitié pour mon chat. J'ai pitié pour mon petit lapin, pour mon poisson dans l'aquarium. Mais qui en est tous les jours, X milliers qui meurent de faim ou sous les obus, c'est qu'une image à la TV. D'ailleurs, je ne regarde plus la TV. Je regarde mes chats. Je regarde mon jardin. Je mets des belles petites fleurs devant ma porte, à ma fenêtre. C'est comme le ricin. Alors Dieu dit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Donc, les gens de la Syrie, quel que soit le degré de civilisation, ne savent pas distinguer leur main gauche et leur main droite. C'est-à-dire, ils sont bêtes, ils ne connaissent pas Dieu. Et tu es appelé à les instruire. Et tu refuses. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas prendre ma retraite? Pas faire ce coup-là, moi. À ceux qui ne distinguent pas leur main droite de leur main gauche dans la région ici. Je ne peux pas me permettre. J'ai déjà fait parfois le Jonas avec certaines personnes. Ouh là là, je ne savais pas les sentir. Et puis, ben, j'ai accepté que le Seigneur me remette en question. C'est pas facile d'ailleurs de se remettre en question. Il faut être fidèle à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. C'est que les hommes de Dieu soient réconciliés avec lui. Les hommes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, qui disent le servir, ils soient réconciliés au point qu'ils aiment que les autres soient aussi réconciliés avec Dieu. Qu'ils aiment avec passion que les autres soient réconciliés avec Dieu. Tout autant que eux sont réconciliés avec Dieu. Comment peut-on aimer une relation, avoir une relation de paix et de joie, de contentement avec Dieu, si elle est égoïste? Paul dit que le contentement et la piété nous suffisent. C'est un grand gain. Ah oui, mais le contentement et la piété, quand on est content, on communique aux autres la même chose que ce qu'on a. Donc, attention les amis, un chrétien content de sa relation avec le Seigneur a en lui un immense désir que d'autres soient un jour aussi contents de connaître Dieu. Ça, c'est extrêmement important au niveau spirituel. C'est extrêmement. Donc, un chrétien qui ne fait pas cette mission-là, c'est parce que, en fin de compte, a-t-il la vraie expérience d'une relation vivante avec son Dieu ? Si on a vraiment une expérience vivante de son Dieu, on a un immense désir que d'autres aient la même expérience. N'est-ce pas? Quand il y a de l'amour, ça se multiplie. Quand il y a le faux amour, ça se divise, ça se casse, ça tombe. Quand il y a la vraie foi, ça se multiplie. Quand il y a la fausse foi, ça périt, ça disparaît, ça sombre. Tout autant que Jonas a sombré dans la mer quand les marins l'ont jeté. La fausse foi, elle sombre. Mais heureusement, Dieu est grand. Au chapitre 2, nous voyons que, après que les marins aient jeté Jonas, hein, parce qu'ils avaient compris que Jonas était infidèle et que Dieu était en colère, pour ça vous lisez le psaume 107, et vous allez voir, vous avez l'expression de la maîtrise des vents, des mers, par Dieu, et sa colère qui s'exprime sur la mer. Psaume 107. Et quand les disciples de Jésus étaient dans la barque avec Jésus, la mer était déchaînée, Jésus la fit taire. Eh bien, le psaume 107 le montre. C'était une prophétie pour l'autorité de Dieu sur les tempêtes, sur les mers. Y a-t-il une autorité de Dieu sur les cyclones qui ravagent les États-Unis maintenant ? Y a-t-il une autorité de Dieu sur El Nino qui ravage toutes les côtes de Colombie et du Pérou et tout ça? Mais non, on s'en fout de Dieu. On s'en fout. On continue à faire tous le mal. La grande Babylone de la Bible, l'Apocalypse, elle s'en fiche. Je suis veuve, mais je ne suis pas dans le deuil. Je suis veuve, c'est-à-dire que je n'ai pas Dieu avec moi, mais je m'en fous. Je ne suis pas dans le deuil, je n'en souffre pas. Je n'en souffre pas d'être sans Dieu. Mais on va voir, tiens, on va voir jusqu'où va aller la colère de Dieu. Sur une société qui se construit en voulant le narguer, lui le grand Dieu. On va voir qui aura le dernier mot. Les amis, attention de provoquer la colère de Dieu. Attention, ça coûte cher. Et Dieu, il va progressivement, pour qu'on ait encore le temps, comme au temps de Noé, quand Noé et sa famille étaient dans l'arche, c'est encore pendant quelques jours la porte est restée ouverte, et puis Dieu fermait la porte. Encore le temps qu'ils réfléchissent. Et est-ce qu'ils veulent réfléchir ou pas aujourd'hui? Les amis, nous ne pouvons pas dire que les gens ne veulent pas réfléchir, donc il faut rien faire. Nous devons toujours dire, nous proposerons l'évangile, nous proposerons toujours l'amour de Christ. C'est à eux la responsabilité de répondre. Mais nous le ferons, le Seigneur nous le demande. Nous le ferons parce que nous croyons que Dieu est grand, qu'il les aime. Même si eux n'aiment pas Dieu. Il ne faut pas être des Jonas. Il faut être des saints Paul. Il faut être des Jean, des Matthieu, il faut être des Nathanaël. Il faut être comme les disciples à la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, et avoir le même amour que Christ pour les âmes perdues. Et bien donc ici, au chapitre 2 de Jonas, vous avez l'engloutissement par un poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, il est en train de prier. Il est en train de mourir et il est en train de prier. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Il y a des psaumes comme ça aussi. Hein, il y a plusieurs psaumes de David. Là, c'est Jonas. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Ah, tiens. Il prend conscience qu'il est en rupture avec Dieu. Hein? Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Ah, il prend conscience que Dieu est bon et fidèle. Et qu'il peut, il lui ouvre la porte, il peut revenir. Ah tiens. Mais notre Gugus, est-ce qu'il va aimer ça aussi pour le Ninivite? Non, il fait l'expérience pour lui que je verrai encore ton Saint-Temple. Oui, 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 oui. Mais, il est dur à détendre après quand même, hein, avec les Ninivites. Il va aller faire son boulot, bien sûr. Hein. Alors, vous savez, au verset 6, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Donc, il est mort. Donc, quand il est rejeté sur la terre, au chapitre 3, verset 1, c'est une résurrection. Comme au temps d'Élie, de Moïse, il y a eu des enfants ressuscités. Vous savez que Jésus a dit que ce peuple qui est dur, là, comme Israël, Capernaum et tout ça, hein, s'ils savaient qui ils ont reçu, hein, c'est bien plus que Jonas qui est venu visiter. Mais ils n'ont pas voulu. Eh bien, au jugement dernier, les gens de Ninive seront là pour vous juger. En parlant des gens de Capernaum, de Chorosaïm, de Bethsaïda, vous imaginez? Il dit donc au peuple juif, les gens de Ninive seront là, avec moi, pour vous juger. Vous vous rendez compte à quel point Jésus, devant les gens de sa race, de sa religion, a été une provocation, en disant que les gens de Ninive, les gens de la Syrie, étaient considérés, étaient auprès de Dieu. L'orgueil, voilà ce que Jésus combat. L'orgueil, voilà l'ennemi que Jésus ne veut pas dans son peuple qui est appelé à la sainteté. L'orgueil, l'esprit de présomption, voilà ce que Jésus ne veut pas. Les titres, les médailles, nous sommes la race élue. Il veut un peuple humble. Vous savez ce que Michée a dit? À la même époque, Michée, au 8e siècle, a dit, voici ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu aimes la miséricorde et que tu pratiques la justice. Eh bien, nous avons un chemin d'humilité, de justice et de miséricorde. Donc, vous voyez, dans le chapitre 2, vous avez un engagement spirituel de Jonas. Il croit qu'il sera sauvé, il croit qu'il sera dans le Saint-Temple, il adore Dieu, il rendra des sacrifices, verset 10, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Alors l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et, chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi. Donc lève-toi, il ressuscite, et va à Ninive. Il va prêcher, et à Ninive, il dit, il y a encore quelques jours, 40 jours, regardez verset 4, il criait, disait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Il n'a pas dit, Dieu vous aime, hein. Il n'a pas dit, Dieu est plein de miséricorde, il veut votre salut, il veut que vous participiez à la vie éternelle. Non, il vient simplement avec des paroles très dures et leur faire peur. Alors, je ne dis pas qu'il a raison, mais il l'a fait. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la population se répand. Eh bien, effectivement, historiquement, le roi de Babylone partait avec son armée. On est en 720. Le roi de Babylone, à 450 km de là, part avec son armée pour aller détruire Ninive. Il a déjà fait plus de 100 km quand les trois fils du roi de Babylone massacrent les amis de l'empereur et prennent le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe-t-il au même moment que Ninive se répand? Le roi de Babylone fait demi-tour, retourne à Babylone pour tuer ses fils et pour reprendre le pouvoir. Et il n'est pas retourné après vers Ninive. Donc, vous voyez que la repentance en 720, a économisé 110 à 120 ans d'existence à Ninive. C'est seulement en 610 que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va envahir Ninive et la détruire. Ce répit de 110-120 ans a laissé le temps à des gens de réfléchir et de connaître Dieu. Lent à la colère, compatissant, riche en bonté. Ok ? Attention. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce plan ? Parce que dans, au chapitre 18, verset 18 d'Ésaïe, ce peuple redoutable, fort et vigoureux, traversé par des fleuves, adorera l'Éternel à Jérusalem. Dans le chapitre 19 d'Ésaïe, au dernier chapitre, il est mis que l'Assyrie et les Égyptiens adoreront l'Éternel à Jérusalem dans les derniers temps, hein, et avec Israël en troisième lieu. Donc, mes amis, si Dieu a un programme de salut pour la Syrie, qu'il l'a dit dans Ésaïe. Il l'a dit dans Ésaïe un siècle ou 80 ans avant. Pourquoi est-ce que Jonas veut le contraire? Pourquoi est-ce que Jonas ne veut pas une repentance, une miséricorde divine sur la Syrie? Pourquoi est-ce qu'il se heurte au plan de Dieu? Dieu a prévu que dans les derniers temps, les gens de Syrie et d'Irak et de l'Égypte adoreraient l'Éternel à Jérusalem. C'est dans Ésaïe. Pourquoi un homme ose défier Dieu dans ses plans? Si dans la prière le Seigneur me dit « Mon voisin, je veux le sauver » et que moi je suis en bataille, je dis non. J'en ai pas envie, moi, de ce mec-là. Hein? Ou au travail, ou dans mon bureau. C'est quoi ça? C'est du Jonas tout cru. Quand le Seigneur nous avertit qu'il a de l'amour pour quelqu'un, même si je n'en ai pas, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, sérieusement. Je lis dans Ésaïe, au chapitre 19, verset 23 et suivant. En ce même temps-là, donc à la fin des temps, dans le royaume de Christ, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, fini d'être le premier, de se croire le meilleur, troisième, uni à l'Éternel, à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. Quand le plan de Dieu est là, le prophète est au service du plan de Dieu. Quand le plan de Dieu est là, le chrétien est au service du plan de Dieu. Il n'est pas chrétien pour soi. Jamais. Si un chrétien croit qu'il est chrétien pour soi, il s'est trompé, il n'est pas chrétien. C'est un croyant, c'est un incrédule. C'est un croyant, c'est une vierge folle, qui a une lampe sans huile, qui n'a pas de lumière, qui n'est pas reçu vers Jésus à son retour. Alors, nous voyons que Jonas, c'est quelqu'un quand même qui montre une dureté extrême envers la Syrie et l'Irak. Donc aujourd'hui, dans l'Israël d'aujourd'hui, si on enseigne ça dans des synagogues, si on osait le dire, il devrait prier pour la Syrie et l'Irak et leur annoncer la Bible. Hein? J'ai vu un film sur les colonies en Cisjordanie, et plusieurs disaient « Je suis raciste ». Les Arabes et Palestiniens, dehors. « Je suis raciste ». C'est du Jonas. Quand j'ai vu en 2008, au mur, et puis repasser par la petite porte, et passer dans les quartiers arabes, moi je me suis mis en faction, j'ai regardé comment ça se passait. Les regards, les attitudes. Des Jonas. Par centaines. Et pratiquement. Avec ceux qui se préparent en Syrie contre Israël, est-ce qu'ils vont prier et aimer, faire connaître l'Éternel à ces gens? Tout le défi, je pense que c'est prophétique le livre de Jonas, tout le défi de Jonas, c'est le défi d'Israël. C'est de prier pour ses ennemis, c'est annoncer la miséricorde de Dieu et le salut aux autres nations. Et quand on regarde bien l'Apocalypse, les 12 000 de chaque tribu, ils sont appelés à servir Dieu dans le royaume de Christ. Ils sont appelés à Jérusalem, à la lumière des nations. Ils sont appelés, Israël, à être au service de Dieu pour être la lumière des nations avec Christ. Ils ont un rôle central dans l'économie du salut lors du règne de Christ. Aujourd'hui, les Jonas qu'il y a là devront changer. Ils ne sont pas recevables devant Dieu, donc ils n'ont pas changé. Parce que la mission de ces Jonas est de servir Dieu dans le monde. Et pas les banques et les brevets et tchik et tchak. La mission de ce peuple, c'est d'aimer son Dieu, c'est d'être saint, c'est d'annoncer la miséricorde de Dieu aux hommes. Eh bien, il y a des grands miracles à venir, les amis, dans l'avenir. La conversion d'Israël et le service d'Israël pour les nations, la conversion des Arabes, des musulmans, en Égypte, en Syrie, en Irak, pour le service de Dieu, en commun avec Israël. Tiens, ben oui, parce qu'ils sont tous descendants de Sem. Ils sont descendants de Sem. Et Sem a été béni. Les Sémites, ils ont été bénis. Ils sont appelés, même s'il y a des haines entre eux pour le moment, ils sont appelés à se réconcilier. Nous avons en Jésus-Christ un Dieu de réconciliation. La croix de Jésus à Jérusalem, c'est la mort du péché de tous les hommes, et d'Israël, et de Syrie, et d'Irak. C'est la crucifixion du péché. C'est la destruction de cette puissance d'orgueil, de vanité, de haine, de division. La croix au Golgotha et la résurrection de Jésus, c'est le salut du monde, à commencer par les peuples qui sont là-bas. Et la situation s'empire au Moyen-Orient parce que ce qui est impossible à l'homme sera possible à Dieu. Dieu aura encore une plus grande démonstration de puissance en amenant tous ces gens à la conversion. Ce ne sera pas une œuvre humaine, autant du côté juif que des autres. C'est ça l'histoire de Jonas.
C'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour Israël.
Ah oui, il faut prier beaucoup. Et c'est pas que Israël soit protégé des bons, c'est qu'Israël se convertisse. C'est qu'Israël serve Dieu. Et les autres aussi. Il faut prier. Il y a dans la vie d'Israël une transformation désirée par Dieu, une transformation complète. Complète. J'ôterai votre cœur de chair et le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous rassemblerai toutes les nations. Ézéchiel 36. Il faut le lire. Alors, le défi de Jonas, c'est le défi de Dieu pour toute la transformation d'Israël et pour toute la transformation de la Syrie, de l'Irak et de l'Égypte. Voilà les amis. Et regardez avec quelle gentillesse Dieu lui a mis un petit arbre, un ricin. Et puis, il lui a dit, mais, je n'aurais pas pitié de Ninive et de 120 000 personnes, j'ai eu pitié de toi. Regardez comment il parle, comme un papa. Comme un papa. Eh bien, regardez bien l'histoire du fils prodigue qui revient vers son père. Son père accourt. Il donne une belle robe, une bague, il tue le chevreau, il fait un bon repas. Et l'autre là, qui est toujours dans les règlements, qui a fait ce qu'il fallait pour papa, il est enragé, il ne veut pas venir manger. Et il est certain que le père se trompe. Il ne devrait pas être bon avec ce fils-là. C'est un Jonas aussi. C'est un Jonas. C'est un Jonas qui juge un autre juif. Donc cette attitude de jugement entre juifs est difficile à maîtriser. Ça s'appelle du péché, à l'état pur, de la vanité. Et la vanité de Jonas, eh bien, elle n'a pas empêché Dieu de sauver Ninive. Donc notre vanité ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Donc la vanité des Syriens et des Irakiens ne pourra pas empêcher Dieu de les convertir. La vanité des Juifs ne pourra pas empêcher de Dieu d'échanger. Voilà l'histoire de Jonas. Quoi qu'il en soit, Dieu fera ce qu'il a dit. Amen.